Pages 12 et 13 dans la rubrique Monde. Russie et Chine inaugurent une nouvelle ère. Par Christine Bière, rédactrice en chef de Nouvelle Solidarité. Contre la loi du plus fort dictée par la géopolitique anglo-américaine, la Russie et la Chine ont publié, le 4 février, une déclaration faisant du développement le moteur essentiel pour assurer la prospérité des nations. À l'occasion de l'ouverture des 24e Jeux olympiques d'hiver en Chine, Xi Jinping et Vladimir Poutine se sont longuement entretenus. Les deux présidents ont ensuite annoncé 15 accords économiques et politiques et publié une déclaration conjointe de la Fédération de Russie et de la République populaire de Chine sur l'entrée des relations internationales dans une nouvelle ère. Chapitre « Unis contre l'impérialisme ». Ce document de 16 pages est un appel à l'action pour l'humanité et non un appel à prendre parti dans un jeu géopolitique mortel, comme l'ont interprété la plupart des médias occidentaux. Dans l'introduction, les deux nations constatent, sans citer de nom, que certains acteurs ont adopté des approches unilatérales pour résoudre les problèmes internationaux et ont recours à la force. Ils s'immiscent dans les affaires intérieures d'autres États, empiétant sur leurs droits et leurs intérêts légitimes, et incitent aux contradictions et aux différends et à l'affrontement, entravant ainsi le développement et le progrès de l'humanité. Le premier volet de la déclaration rappelle, je cite, « la démocratie est une valeur humaine universelle plutôt qu'un privilège d'un nombre limité d'États ». Fin de citation. Il est donc inacceptable que certains États tentent d'imposer leurs propres normes démocratiques à d'autres pays et établissent des blocs qui vont à l'encontre de la véritable démocratie. Deuxièmement, le développement est le moteur essentiel pour assurer la prospérité des nations et donc la sécurité. Il est vital de renforcer les relations de partenariat pour favoriser le développement. La Chine et la Russie s'engagent à renforcer la coopération entre l'initiative, la ceinture et la route et l'Union économique eurasienne. La troisième section, la plus longue, est consacrée aux graves problèmes de sécurité internationale. Elle déclare catégoriquement que les deux parties s'opposent à tout nouvel élargissement de l'OTAN et appelle l'Alliance de l'Atlantique Nord à abandonner ses approches idéologisées datant de la guerre froide. Par ailleurs, la partie chinoise accueille favorablement et soutient les propositions avancées par la Fédération de Russie visant à créer des garanties de sécurité à long terme juridiquement contraignantes en Europe. Les deux parties sont également opposées à la formation de structures de blocs fermés et de camps opposés dans la région Asie-Pacifique. Enfin, la partie russe réaffirme son soutien au principe d'une seule Chine, confirme que Taïwan est une partie inaliénable de la Chine et s'oppose à toute forme d'indépendance de Taïwan. La quatrième section, qui met en exergue le rôle central de coordination des Nations Unies, dans les affaires internationales, appelle à la coopération plutôt qu'à l'affrontement entre puissances mondiales. Elle se félicite de la récente déclaration conjointe des dirigeants des 5 États dotés d'armes nucléaires sur la prévention de la guerre nucléaire et la prévention des courses aux armements, et ouvre la discussion sur les étapes de la réduction des armes et des risques nucléaires. Chapitre « L'Empire contre-attaque ». Cette initiative positive met en évidence la dangereuse géopolitique en jeu concernant l'Ukraine, les stratagèmes des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'OTAN. Il est d'ailleurs très instructif de lire la réaction du Daily Telegraph, fidèle porte-parole de l'Empire britannique et de la City de Londres. L'article, intitulé « La Russie et la Chine se relèvent pour contester la domination des États-Unis », constate amèrement, je cite, « Le message est tout sauf routinier. À un moment de très grande tension internationale, la Russie et la Chine affirment l'arrivée d'une nouvelle ère géopolitique. » Désormais, la domination mondiale de l'Occident, dirigée par les États-Unis, ne sera plus considérée comme acquise, ni tolérée. Fin de citation. Après des décennies d'humiliation, les superpuissances autocratiques du monde se sont relevées et vont maintenant mettre fin à l'ordre mondial inéquitable de l'après-guerre froide, poursuit le Télégraphe, ajoutant que nous entrons maintenant dans une deuxième guerre froide qui sera longue et glaciale. Forcé de reconnaître que les multiples efforts pour monter la Russie et la Chine l'une contre l'autre ont échoué, le quotidien britannique écrit ensuite, je cite, « L'espoir de M. Xi Jinping, puis l'espoir que M. Xi puisse être convaincu de contenir son allié ou de rester allié, ou à l'inverse, que M. Poutine puisse être enrôlé pour aider à contenir la Chine, a été anéanti. » Fin de citation. Autrement dit, il ne reste plus à l'empire anglo-américain qu'une seule option, la guerre, tant militaire qu'économique, afin de mettre la Russie et la Chine à genoux. Point final de l'article. Alors, pour illustrer cet article, une carte du monde montrant les États-Unis, le continent américain comme le nouveau monde, puis le continent africain et océanique, les continents extérieurs, et donc en rouge et jaune, en rouge le Heartland, c'est-à-dire comprenant principalement la Russie, et le Rimland, c'est-à-dire entourant la Russie, comportant l'Inde, la Chine, l'Europe et le Proche et Moyen-Orient. Tout simplement avec la légende « Carte de la géopolitique » selon Spikeman. Et avec en exergue, les deux parties s'opposent à tout nouvel élargissement de l'OTAN. Les deux parties étant la Chine et la Russie. Et donc en page 13, toujours dans la rubrique Monde, un autre article qui fait référence à notre chronique stratégique Le Monde en devenir, que vous pouvez consulter sur le site solidaritéetprogrès.fr. Donc, article intitulé « Troisième guerre mondiale ?» La géopolitique en accusation. Alors que l'humanité bascule à nouveau vers une nouvelle guerre mondiale, il est grand temps de condamner les théories géopolitiques qui nous ont conduits aux deux guerres mondiales du XXe siècle. Provoquer la guerre entre l'Europe et la Russie, afin de leur interdire de développer cet espace richissime en matières premières et en population qu'est l'Eurasie ? Voilà l'obsession des puissances anglo-américaines qui, par leur contrôle des mers, ont trop longtemps dominé le monde. À l'origine de ces théories, l'Allemand Friedrich Ratzel, suivi de son disciple Karl Haushofer, repris ensuite par Alford John Mackinder au Royaume-Uni et plus tard par l'Américain Nicholas Spikeman, dont nous avons vu la carte. Ratzel est le premier à comparer faussement un État à un être vivant qui, pour vivre, devrait s'étendre et fortifier son territoire. De là vient l'idée fausse que pour être puissant, un État doit être très vaste et peuplé, cherchant au besoin à agrandir son espace vital comme l'ont fait les nazis. Haushofer et Mackinder dressèrent ensuite les premières cartes géographiques illustrant les conflits et les puissances. Celle de Mackinder décrit un océan mondial, avec au centre une île du monde, comprenant l'Afrique, l'Asie et l'Europe, entourée d'îles périphériques, le Japon, la Grande-Bretagne, l'Amérique et l'Australie. Pour contrôler le monde, selon lui, il fallait dominer cette île, et surtout son cœur même, le Heartland, qui s'étend de l'Europe centrale à la Sibérie orientale. Cette carte représentait bien les enjeux du moment, le contrôle des mers par l'Empire britannique et la puissance allemande qui, via la Mitteleuropa, tentait d'accaparer les espaces continentaux jusqu'à la Russie. Spikeman, 1893-1943, perfectionna, entre guillemets, ensuite cette carte pour en faire la base même de la doctrine stratégique américaine en vigueur aujourd'hui. Pour lui aussi, le Heartland était la zone à convoiter, mais pour la dominer, il suffisait de contrôler les pays qui l'entourent, le Rimland, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud. Or, depuis la fin de la guerre froide, au lieu d'agir pour développer cette Eurasie, puisqu'il n'y avait plus aucune raison de se faire la guerre, les puissances anglo-américaines ont préféré adopter le « diviser pour régner », c'est-à-dire reprendre le contrôle de l'Europe de l'Est, l'Ukraine notamment, et réduire la Russie à rien de plus qu'une puissance régionale. Zbigniew Brzezinski fut en cela le digne successeur de Spikeman, avec le résultat que l'on connaît aujourd'hui. Point final, cet article était aussi écrit par Christine Bière, donc rédactrice en chef du journal Nouvelle Solidarité, et toujours sur la page 13, dont la rubrique Monde, un article de Madame Christine Bière, de nouveau, intitulé Brzezinski, l'apprenti sorcier. 1997, alors que la Russie cherchait encore à s'intégrer dans le système occidental, ce conseiller de nombreux présidents américains publia Le Grand Échiquier, un livre qui nous conduit aujourd'hui au bord du gouffre. Extrait. Je cite. Quant à la Russie, malgré sa puissance nucléaire, elle subit un recul catastrophique. Les États-Unis s'emploient à détacher de l'Empire russe ce qu'on dénomme aujourd'hui à Moscou l'étranger proche, c'est-à-dire les États qui, autour de la Fédération de Russie, constituaient l'Union soviétique. À cet égard, l'effort américain porte vers trois régions clés. L'Ukraine, essentielle avec ses 52 millions d'habitants, et dont le renforcement de l'indépendance rejette la Russie à l'extrême est de l'Europe, et la condamne à n'être plus dans l'avenir qu'une puissance régionale. L'indépendance de l'Ukraine modifie la nature même de l'État russe. De ce seul fait, cette nouvelle case importante sur l'échiquier eurasien devient un pivot géopolitique. Sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire en Eurasie. Et quand bien même elle s'efforcerait de recouvrer un tel statut, le centre de gravité en serait alors déplacé, et cet empire, pour l'essentiel asiatique, serait voué à la faiblesse, entraîné dans les conflits permanents avec ses vassaux agités d'Asie centrale. Point final, avec donc en illustration à cet article, une photo de Zbigniew Brzezinski à la conférence de sécurité de Munich.